accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, l'Europe se débat face à la déferlante Omicron, avec chaque jour des records de contamination tant ce dernier variant du Covid-19 est contagieux. Dans plusieurs pays, les absences pour maladie et les dysfonctionnements commencent donc à se faire sentir, notamment dans le secteur de la santé. Au Royaume-Uni, par exemple, 1 million de Britanniques est déjà en quarantaine et près d'un soignant sur 10 ne peut pas venir travailler, soit parce qu'il est positif au Covid-19, soit cas contact. Face à cette situation, les hôpitaux commencent à avoir du mal à gérer et alors que le pic des hospitalisations à Londres est attendu mi-janvier, le gouvernement tente tant bien que mal de prendre des mesures, Marie Billon.
C'est pour éviter la catastrophe, en l'occurrence que l'établissement soit submergé, qu'une partie du parking de l'hôpital Saint-Georges, dans le sud de Londres, est transformée en chantier. Depuis une semaine, des ouvriers y construisent un hôpital de campagne. 8 de ces Nightingale Hubs sont actuellement en construction en Angleterre. Le but de ces structures temporaires est d'accueillir les malades du Covid, nécessitant peu de soins mais ne pouvant pas encore rentrer chez eux. Dans le quartier de Tooting où se trouve cet hôpital, la décision est loin de faire l'unanimité.
C'est super, très bonne idée. Comme ça, ils n'occupent pas des docteurs pour rien et ils n'encombrent pas des lits non plus.
Ce variant n'est pas aussi grave. Il ne rend pas les gens autant malades que le précédent. Alors je ne comprends pas pourquoi on construit des hôpitaux dont on n'aura potentiellement pas besoin. C'est beaucoup d'argent dépensé, peut-être pour rien.
Les spécialistes s'attendaient à 5000 hospitalisations par jour en Angleterre début janvier. Elles tournent plutôt autour de 2000. Malgré tout, 24 groupes hospitaliers anglais ont déclaré un seuil critique ces derniers jours. Un mécanisme qui leur permet de collaborer plus facilement avec des établissements voisins pour réduire la pression sur les équipes. Cette alerte est lancée quand un hôpital estime ne plus être en capacité d'apporter des soins adéquats. Et c'est là tout le problème. La Grande-Bretagne ne manque pas tant de lits, mais de médecins et d'infirmiers. Dans un autre établissement au sud-est de Londres, le docteur Mario, urgentiste, doit faire des heures supplémentaires car trop de ses collègues sont absents.
C'est une hécatombe dans le sens que, en fait, nous avons presque 50% de notre effectif complètement hors jeu. Ils sont tous malades, soit ils sont isolés. En tout cas, chaque matin, quand on vient au boulot, on ne sait pas qui va venir et qui ne va pas venir. C'est vraiment difficile, quoi.
Le but, a dit le ministre de la Santé, est de ne pas avoir besoin d'utiliser ces hôpitaux de campagne, car l'idéal est que les hôpitaux classiques tiennent le choc, même si les tensions actuelles obligent déjà à annuler des opérations et des examens considérés comme non vitaux pour libérer de la place et du personnel. The day they found a cure for AIDS, everybody took one little pill and was okay. The day they found a cure.
Et avec un secteur de la santé en surchauffe, ce sont des dizaines d'opérations qui sont mises en attente, mais aussi des traitements longs ou encore des programmes de prévention ou de dépistage suspendus. En Roumanie, ce sont les personnes atteintes du sida qui se retrouvent pénalisées. L'Europe de l'Est compte les trois quarts des cas de VIH diagnostiqués en Europe et depuis le déclenchement de la pandémie, la prise en charge de ces malades, mais aussi leur dépistage, est devenue de plus en plus difficile avec des hôpitaux débordés. Le reportage de Benjamin Ribou auprès de l'association roumaine anti-sida à Bucarest.
C'est un joli pavillon de Bucarest. À l'intérieur, l'association roumaine anti-sida propose de dépister gratuitement ceux qui en auraient besoin. Mais en cette matinée de décembre, aucun rendez-vous n'est programmé. Hier, 3 seulement. C'est peu. Raluca Teodorescu, assistante sociale, propose à Sébastien de vérifier s'il a contracté le sida. À 41 ans, l'homme a un passé de toxicomane et à l'hépatite C. Il y a 6 mois, c'est déjà Raluca qui l'avait testé.
Certaines personnes ne veulent pas savoir si elles sont positives. Moi, c'est le contraire. Je préfère me tester tous les 3 mois s'il le faut, car j'ai des enfants, une famille. Vous imaginez si je les contamine? Il y a 5 ans, j'ai eu un incident en aidant un toxicomane à se piquer. Il ne pouvait pas le faire tout seul et il avait le sida. Il était sous traitement. Lorsque j'ai retiré la seringue, il a appuyé sur la pédale d'accélérateur de sa voiture. La seringue a atterri dans mon doigt. Depuis, je n'ai pas arrêté de me tester, pour être bien sûr.
Sébastien est tombé dans la drogue à 17 ans, mais n'en consomme plus depuis 10 ans. Environ 2 fois par mois, il vient dans ce centre pour prendre de la méthadone. Le test VIH est négatif, Un dialogue s'installe autour des traitements à suivre pour son hépatite C, ainsi que sur le virus du sida et des vaccins Covid. Raluca travaille dans ce centre depuis 2013. Elle sait que donner les bonnes informations, mais aussi créer du lien, est devenu extrêmement rare.
À l'hôpital, quand tu te fais dépister, il n'y a aucune interaction humaine. On te met sur une chaise, on prélève ton sang et tu reçois le résultat sans aucune explication. À chaque fois que je dépiste quelqu'un, la personne me dit toujours en partant qu'elle est surprise que j'ai pris le temps de l'écouter et de la conseiller. Avec le Covid, le degré d'hypochondrie est très élevé. Au moindre problème, c'est soit le Covid, soit le sida ou autre chose de très grave. C'est d'ailleurs principalement pour ça que les gens viennent se faire dépister.
Avant la pandémie, la Roumanie déplorait 700 à 800 nouveaux cas de sida par an. Un chiffre important. Si avec le Covid, les chiffres ont été divisés par deux, c'est tout sauf une bonne nouvelle pour Julian Petre de l'UNOPA, une organisation en charge des malades du sida.
Avec la pandémie, les programmes de dépistage sont devenus inexistants. Pour ce qui est de l'accès aux services médicaux, mars 2020 a marqué un tournant, puisque plus de 90% des hôpitaux de maladies infectieuses ont été réquisitionnés pour le Covid. On y délivre les traitements antirétroviraux, dehors, dans la cour, mais c'est tout. On ne peut plus être admis à l'hôpital, ni bénéficier d'une consultation, on ne fait plus d'analyse. À quelques rares exceptions près. La plupart des malades maintiennent le lien avec les médecins par téléphone et SMS. La situation est désastreuse.
Le programme roumain de lutte contre le VIH prévoit des traitements gratuits pour les personnes infectées, ainsi que des tests entre 350 000 et 500 000 par an. Aujourd'hui, seules les femmes enceintes sont dépistées automatiquement. Pour le reste de la population, tout a été suspendu. Résultat, les malades du sida ne sont identifiés que tardivement et très souvent dans un état grave, ce qui complique leur situation. Enfin, le nombre d'infections au sida chez les hétérosexuels est en augmentation. Julian Petré.
Le nombre de cas importants parmi les populations hétérosexuelles est très inquiétant et révèle bien le problème en matière d'éducation. Les jeunes ne savent pas comment se protéger. On ne trouve nulle part de préservatif gratuit. Notre pays a reculé. En 2005, on avait des campagnes nationales de prévention. Tous les élèves faisaient de l'éducation à la sexualité. Ils apprenaient à l'école comment utiliser le préservatif. Aujourd'hui, très peu d'entre eux obtiennent ce genre d'informations à l'école.
Lancée l'an passé par l'association roumaine Anti-Sida, la semaine du dépistage a permis de dépister 650 personnes en 2020 en Roumanie. Cette année, l'ONG visait les 1600 tests. Une goutte d'eau, mais qui compte dans un pays où tout reste à faire. Exemple, le taux de contamination chez les personnes homosexuelles est toujours beaucoup plus élevé que dans la population hétérosexuelle, 7% contre 0,1%, faute d'information.
En Turquie, ce sont les médicaments qui viennent à manquer. Effet collatéral des difficultés économiques et de la crise monétaire avec laquelle se débat le pays, mais pas seulement. La pandémie de Covid-19 a provoqué une hausse du prix des matières premières et donc aussi du prix des médicaments. À Istanbul, les explications d'Anand Loer.
Des remèdes contre la toux, la fièvre, des antidouleurs, des antibiotiques et même des traitements contre le diabète ou le cancer. Cela fait des mois que les pharmaciens turcs alertent contre le manque de médicaments, parfois parmi les plus prescrits. L'Union des médecins du pays avançait en décembre le nombre de 700 références, devenues quasiment introuvables. Dans beaucoup des 27 000 officines de Turquie, les tiroirs sont clairsemés et le ton monte parfois entre pharmaciens impuissants et patients contraints de repartir avec leur ordonnance. La principale explication, c'est que les médicaments concernés, comme la plupart des médicaments en vente dans le pays, sont importés de l'étranger, importés par des fournisseurs contraints de vendre leurs produits sur le marché local à un prix fixé une fois par an par le gouvernement. Ce prix de vente est établi en fonction d'un certain taux de change. En février 2021, la dernière fois qu'il a été mis à jour, les autorités ont imposé un taux de 4,58 livres turcs pour 1 euro. Or, la livre a connu l'an passé une chute record. En décembre, 1 euro s'échangeait contre plus de 20 livres. En ce début janvier, le cours avoisine les 15 livres pour 1 euro. Conséquence, plutôt que de vendre à perte, les importateurs de médicaments préfèrent réduire leurs importations et ne pas distribuer leurs stocks en attendant que le gouvernement annonce le nouveau taux annuel. Les professionnels du secteur réclament que les prix soient fixés non plus une fois par an, mais 3 fois par an pour éviter ce genre de crise que la pandémie de Covid ne vient pas arranger. Cette dernière ayant provoqué une hausse des prix des matières premières, les traitements produits en Turquie sont en effet affectés, eux aussi, alors que la demande augmente en cette période d'épidémie. Quant au gouvernement, il nie toute pénurie et préfère accuser les entreprises pharmaceutiques d'être responsables des problèmes en tentant de vendre cher leurs médicaments.
Et alors que la pandémie se moque des frontières, comment mieux communiquer entre services de pompiers ou de police en cas de catastrophe, d'attentat ou de situation d'urgence ? La question s'est posée très concrètement cet été lors d'inondations catastrophiques en Wallonie. Et force a été de constater qu'à l'heure de la 4G, les talkie-walkie utilisés par les services d'intervention n'étaient absolument pas compatibles d'un pays à l'autre. Du moins, pas encore, car un projet européen tente de changer la donne. C'est le reportage de notre consoeur de la RTBF, Myriam Bell.
Colonel Tuss, contactez le poste 200.
On va dans le hall principal où la plupart des véhicules sont installés.
Nicolas Tuss, colonel de la protection civile dans la caserne de Crismay. Il y a dans cette caserne des bateaux et des pompes qui ont servi lors des inondations catastrophiques de la mi-juillet.
La pompe blanche que vous voyez là, c'est justement la pompe qui a été utilisée pour les pompages d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Mais en juillet, tout ce matériel et les équipes de secours belges n'ont pas suffi. L'ampleur du déluge a poussé la protection civile à actionner un mécanisme d'appel à l'aide européen. Un appel aux protections civiles des 26 autres États de l'Union.
On est intervenu plusieurs fois, nous, à l'étranger, dans ce mécanisme-là. C'était la première fois en Belgique qu'on faisait appel à nos collègues des autres pays. La demande a été acceptée par l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas, la France, bien sûr. Et donc, ces moyens, on peut les estimer à plus ou moins 350 personnes et à peu près entre 40 et 60 bateaux. Donc, on a eu vraiment une aide assez importante pour pouvoir faire face à l'ampleur de la situation.
Et est-ce que toutes ces personnes qui débarquent d'ailleurs s'appuient toutes sur des modes de communication identiques ? Est-ce que chaque État n'a pas sa technologie ?
Tout à fait. Donc les moyens de radio-télécommunication ne sont pas compatibles d'un pays à l'autre. Il faut savoir que, par exemple, en Belgique, nous avons le réseau Tetra qui est organisé par la société Astrid. Donc ce sont les moyens de télécommunication par radio pour les services de secours. Ce sont des talkie-walkie. La France a une autre norme.
Cette barrière a pu être dépassée et les équipes européennes ont pu entrer en action en partant chacune sur le terrain avec un officier de liaison belge. La communication passait par lui via le réseau belge Astrid ou via les GSM qui fonctionnait encore. Les officiers de liaison permettaient aussi aux sauveteurs italiens, autrichiens, de trouver leur chemin dans les zones inondées. Les équipes internationales ont également pu s'insérer facilement dans les opérations belges parce qu'elles s'entraînent parfois ensemble lors d'exercices européens de protection civile. Et tout ça a permis de surmonter l'obstacle du talkie-walkie en juillet, dit le colonel Tuss, mais il faudrait le lever définitivement.
La Belgique est un petit pays, ce ne serait pas un luxe d'avoir ces moyens de communication étant donné que régulièrement, ici en province de Liège, on a des fois des renforts de la part des Pays-Bas et de l'Allemagne dans le cadre d'opérations classiques de renforts incendie ou des choses comme ça.
Derrière cette porte du quartier européen à Bruxelles, une équipe travaille précisément sur cette question-là. La fluidité des communications entre les polices, les secours dans l'Union européenne.
Je m'appelle Marie-Christine Bonamour, je suis la secrétaire générale de l'association Public Safety Communication Europe, qui regroupe les forces de sécurité publique européenne, donc des ministères, des forces de police, des agences de protection civile, des ONG comme la Croix-Rouge, par exemple, puis des industriels qui travaillent dans le secteur et des instituts de recherche technologique.
Cette association, financée par la Commission, cherche comment rendre compatibles les systèmes de communication de première ligne dans l'Union. Les États qui veulent se joindre à ce projet, appelé Broadway, doivent d'abord tous passer du bon vieux talkie-walkie à une technologie plus moderne, pour se transmettre aussi des vidéos de scènes de catastrophes ou des cartes géographiques. Et ensuite seulement, ils rendront leur système compatible.
Chaque État est en train de développer sa propre stratégie pour migrer et augmenter leur propre système. Broadway, c'est pour créer la couche européenne pour que chacun, avec son propre système, puisse intercommuniquer avec ses collègues dans un autre pays ou continuer, quand il change de pays, avoir le lien avec son commandement et son centre de contrôle dans son propre pays. Ne pas sentir le passage de frontières, en fait.
Cette plateforme a dressé une liste de besoins de terrain et l'a soumise ensuite aux industriels européens. Il reste aujourd'hui en compétition deux consortiums d'industriels et de petites entreprises qui planchent sur une solution clé sur porte. Ces solutions seront testées l'an prochain pour être ensuite achetées par certains États. Mais il faudra que ces États revoient aussi quelles informations sensibles ils laissent circuler. C'est un obstacle plus politique après les freins techniques.
Il faudra toujours partir sur un cadre, savoir ce qu'on peut échanger ou pas, et aussi se bien se mettre d'accord si on passe des marchés publics ensemble sur la répartition des coûts.
Ce chantier Broadway, s'il aboutit, aura pris une décennie. Entre ces véhicules de la protection civile, le colonel Tutz salue le projet, mais avec une réserve.
L'outil va faire un quart du chemin. Les trois quarts du chemin, c'est les exercices internationaux.
Pour bien communiquer dans l'urgence, dit-il, rien de tel que des humains qui se connaissent de part et d'autre des appareils. Cet officier plaide donc pour réinvestir dans le personnel et dans les exercices européens, comme on investit dans cette technologie.
Écoute ce disque.
Vendredi, c'est l'heure musique. Et c'est avec vous, Vincent Théval. Bonjour.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Au menu aujourd'hui, une jeune artiste gréco-soudanaise.
Je vous propose de débuter l'année avec celle qui pourrait bien en être l'une des plus belles têtes d'affiche, la musicienne grecque Marina Sati. Formée toute jeune au piano classique, au chant puis au jazz, elle a aussi suivi des études d'art dramatique et partage aujourd'hui son temps entre le théâtre et les salles de concert. Elle a notamment formé en 2016 l'ensemble féminin Phones, qui interprète des chants polyphoniques du monde entier. Au fil de ses projets, Marina Sati s'est particulièrement intéressée aux musiques traditionnelles de Méditerranée orientale. C'est l'une des influences qui imprègne ses nouvelles chansons dans le registre d'un R&B très moderne, comme le single Ponos Kryphos qu'on retrouvera sur le deuxième album de Marina Sati à paraître cette année.
Ποιος άλλος σε κοιτώ, μα είναι σαν να κοιτάει κάποιος άλλος. Τι έχει πάθει το σώμα μου, πέφτω βουλιάζω στο στρώμα μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζουν σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρομή. Μη με αφήσεις καρδιά μου, μη με αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Μία θυμώνω και μία φοβάμαι. Και μια δε θυμάμαι. Πέφτω ψηλά από τα σύννεφα. Νύχτα παλεύω με κύματα. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις καρδιά μου, μη με αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή. Περπατώ πάνω σε ρογμή. Μη με αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος.
C'était Ponos Kryphos de Marina Sati. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou les plateformes d'écoute. À lundi.
Que perpato pano se rogni. Mi me afis escar